BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, il est presque 7h. Bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. On parlera évidemment des résultats d'entreprises après le luxe, la deuxième salve des GAFAM, résultats supérieurs aux attentes pour Microsoft, des revenus publicitaires records pour Meta. Mais c'est le grand écart, vous allez voir. On va voir ça dans le détail ce matin avec Étienne Brack. Il y a énormément de publications ce jeudi. Et puis la situation en Gironde, alors que les pompiers sont toujours sur le front, les premières retombées économiques commencent à émerger, les cultures mais aussi l'hôtellerie qui est en première ligne. La saison est-elle perdue? On posera la question à François-Xavier Roux dans ce journal. Mes invités dans la prochaine heure, alors que les yeux sont tournés vers le Moyen-Orient, est-ce que le conflit est en train de s'étendre à l'Ukraine? On parlera de la stratégie de Volodymyr Zelensky à 7h20 avec Ulrich Bouna dans Le Monde qui bouge. Et puis il a repris les commandes de Solocal il y a 2 ans, Solocal qui sort sa tête de l'eau dans son accompagnement au développement numérique des petites entreprises. Maurice Lévy viendra nous parler de ses résultats, mais aussi de la situation en Gironde. Ce sera dans le grand entretien à 7h45. Tous nos invités, toutes nos chroniques, la matinale de l'économie. C'est parti, soyez les bienvenus.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good morning business. Le journal.
Les publications après Alphabet la semaine dernière, deuxième vague de résultats pour les GAFAM, Microsoft et Meta hier soir. Étienne Brack, c'est le grand écart avec d'un côté une croissance des profits 31% chez Microsoft au deuxième trimestre et de l'autre moins 14% chez Meta.
Oui, avec un grand écart également en bourse, dans le sens où hier soir, le titre Microsoft est en hausse de plus de 7%, avec une croissance des profits qui était largement supérieure aux attentes, quasiment 36 milliards de profits nets dégagés en l'espace de 3 mois grâce au cloud. Vous avez Microsoft Azure qui a vu ses ventes progresser de 43%, c'est plus que les 40% attendus par le consensus. Et puis l'autre nouvelle qui rassure et qui explique l'envolée du titre en après-bourse, c'est le nombre de licences payantes de M365 Copilot, plus de 30 millions écoulés le trimestre dernier contre 20 millions au premier trimestre. Dans ces licences, Microsoft arrive à, bien sûr, vendre l'intelligence artificielle. Et depuis des semaines, des mois, la crainte des analystes, c'est le fait que tous ces milliards investis dans l'intelligence artificielle n'arrivent pas à créer des revenus. Et là, aujourd'hui, Microsoft arrive à vendre de l'intelligence artificielle, non pas, bien sûr, aux clients particuliers, mais aux clients professionnels, aux entreprises. Et bien sûr, c'est ce qui compte, hein, aujourd'hui, notamment pour Microsoft, qui fait une grande partie de ses profits sur la clientèle professionnelle. Les dépenses d'investissement légèrement inférieures aux attentes au deuxième trimestre, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et donc ce titre qui est attendu en forte hausse tout à l'heure à Wall Street après un parcours plus que décevant, puisque vous avez un repli de 18% de Microsoft depuis le 1er janvier.
Et à l'inverse, Meta était en baisse de plus de 7% en après-bourse, Étienne.
Ouais, il faut dire qu'à côté de Microsoft, la publication de Meta paraît beaucoup moins flamboyante. La marge opérationnelle est tombée de 43% à 31% en l'espace d'un an. Et puis surtout, le flux de trésorerie qui était de plus de 8 milliards il y a un an est tombé à moins de 800 millions de dollars, avec certes des éléments exceptionnels. Il faut dire que le groupe a licencié beaucoup de personnes, donc forcément, eh bien, tout ça, ça coûte de l'argent, des charges judiciaires également, mais surtout, les analystes constatent que vous avez un groupe qui va dépenser plus, au moins 130 milliards de dollars d'investissement cette année. Alors, pour assurer, Mark Zuckerberg a confirmé qu'il allait lancer Meta Compute, hein, qui vise à louer des capacités de calcul à ses concurrents, mais ça ne suffit pas. Ce titre était en forte baisse hier soir en après-bourse. Dernière salve ce soir, hein, après la clôture de Wall Street avec les résultats d'Apple et d'Amazon.
Merci Étienne. Et puis hier, la Fed a maintenu ses taux inchangés. L'inflation est élevée, la guerre au Moyen-Orient s'enlise, la bourse est fébrile, bref, la pression monte, mais Kevin Warsh n'a, je cite, pas de baguette magique. On écoute le président de la Réserve fédérale.
L'économie a fait preuve d'une solidité impressionnante malgré les récents chocs. Les tendances sont positives et nous montrent une croissance qui reste robuste. Les créations d'emplois ont suivi le rythme de la population active et le taux de chômage a peu évolué. L'inflation demeure élevée par rapport à l'objectif de 2% fixé par le comité.
En France, les résultats de Renault et dans un secteur déprimé. En Europe, le constructeur français Renault avec les bénéfices. Son chiffre d'affaires est en augmentation de 10% sur un an et au premier semestre. Et sa marge opérationnelle pointe à 5,2%. Le groupe qui confirme ses prévisions pour 2026. Explication Justine Vassogne.
François Prevot, lors de la présentation des résultats, a tenu à le préciser. Cela fait un an tout juste qu'il a pris ses fonctions et il est fier, dit-il, de son bilan. Au premier semestre, le groupe tire son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires en hausse de 10%, tiré notamment par les bons résultats de la marque Renault, dont les volumes augmentent de 3%. Renault, dont un quart des ventes est désormais 100% électrique, porté par le succès de la R5 et un démarrage explosif, selon les dires de François Prevot, de la nouvelle Twingo, la multiplication des partenariats, qu'ils soient anciens avec Nissan ou plus récents avec le chinois Geely en Corée du Sud et au Brésil, tire aussi les ventes de Renault vers le haut. Beaucoup de constructeurs viennent frapper à notre porte, explique d'ailleurs François Prevot, ouvert à de nouvelles alliances en Europe, à condition que ses partenaires utilisent ces technologies. Le patron de Renault a par ailleurs confirmé les prévisions du groupe pour 2026, avec un objectif de marge opérationnelle à 5,5%.
Et on attend les résultats de Stellantis tout à l'heure, on vous les donnera évidemment dans la matinale de l'économie. La situation en Gironde, une semaine après le départ de feu, et alors que la lutte se poursuit, MKG Consulting publie un premier point d'étape sur l'impact des feux dans l'hôtellerie en Aquitaine, et le manque à gagner atteindrait déjà 2 à 5 millions d'euros par semaine, François-Xavier Roux.
Effectivement, Sandra, les réservations d'hôtels sont en chute libre sur le littoral girondin depuis une semaine et même loin des flammes. La saison avait pourtant bien commencé avec un taux d'occupation de 92%. Et dans un premier temps, les hôtels ont d'abord donné l'illusion de résister au début de l'incendie. Entre le 22 et le 24 juillet, le taux d'occupation a même progressé. Rien que sur la métropole bordelaise, ce chiffre était supérieur de 12 points comparé à la même période en 2025. Mais cette hausse ne reflétait pas un afflux de vacanciers, elle était portée par le relogement des habitants évacués. Cela s'est vu dans la qualité des hôtels réservés. Les hébergements les plus économiques doublent presque leur rythme de réservation de dernière minute de 6 à 11%, alors que le haut de gamme perd les trois quarts du sien.
Oui, c'est intéressant. En effet, le samedi 25 juillet, tout bascule. François-Xavier, les annulations deviennent supérieures aux ventes.
Les réservations de dernière minute, pourtant à un niveau important à cette même date l'an dernier, chutent de 17 points. Et sur la semaine, elles deviennent négatives et reculent de 3%. Sur cette période, MKG estime donc la perte de chiffre d'affaires entre 2 à 5 millions d'euros et un chiffre qui se répétera chaque semaine tant que l'incendie dure. En début de semaine, seuls 45% des chambres étaient prises pour le mois d'août sur le bassin d'Arcachon. La bonne nouvelle, c'est que l'arrière-saison résiste. Les réservations à plus de 2 mois, elles, progressent à un rythme supérieur comparé à 2025. Seul le cœur de l'été est donc pénalisé pour le moment.
Oui, effectivement, on verra dans les semaines à venir si c'est un simple report ou si la saison touristique est perdue. Merci François-Xavier Roux. Les incendies qui fragilisent l'hôtellerie, mais il rappelle aussi que l'adaptation au changement climatique devient incontournable. Dans le logement, les promoteurs sont désormais poussés à construire autrement. Écoutez, Pierre-Henri Pouchelon, directeur général adjoint en charge des finances chez Nexity, il était au micro hier soir de BFM Business.
Je pense que vous voyez bien qu'il y a un consensus national, local, sur le besoin en logement, sur la nécessité de construire. Ces canicules, ça marque les Français. Et donc, on voit qu'il y a une urgence à produire du logement de qualité. Et donc, c'est là peut-être qu'il y a une différence, c'est qu'il y a un changement de paradigme sur la promotion. Ça a été un métier de volume, ça devient un métier de qualité. Et donc, la qualité des emplacements, le prix. Il faut qu'on fasse du prix abordable pour nos clients et qu'on fasse des logements qui soient adaptés au changement climatique.
7h07, les marchés. Etienne Brack avec cette séance difficile à Wall Street après la prise de parole de Kevin Warsh.
Le Dow Jones a perdu plus de 2% hier soir à la clôture, moins 1,5% pour le S&P 500, moins 1,7% pour le Nasdaq. Le Nasdaq 100, son petit frère, est même rentré en zone de correction, moins 10% depuis les plus hauts historiques. Et pourtant, on vient de l'entendre, Kevin Warsh n'a pas relevé les taux. Hein, c'était une crainte du marché, il n'a pas relevé les taux, certes. Mais comme nous le verrons en détail à 7h40, il est resté très évasif sur la politique qu'il souhaitait impulser. Et les boursiers se sont retrouvés dans le brouillard après cette réunion. Ce matin, la bourse de Séoul se stabilise après avoir perdu 17% en l'espace de 2 jours. Le Kospi perd à peine 1%. La Corée du Sud qui s'est engagée hier à prendre des mesures pour stabiliser les marchés. Ça passe notamment par une meilleure régulation des produits à effet de levier. Et puis surtout, vous avez Samsung qui a publié ses résultats cette nuit. Souvenez-vous, hier, c'était Skynix qui a perdu 10% à la clôture, quasiment 20% en séance. Et contrairement à son rival, vous avez des résultats qui sont en ligne avec les attentes. Quand même 61 milliards de dollars milliards de profits opérationnels en l'espace de 3 mois. C'est juste historique hein, pour un groupe qui est notamment présent dans le secteur des semi-conducteurs. Samsung qui voit eh bien, une pénurie perdurer au moins jusqu'en 2028 dans ce segment des puces.
On vient de voir les résultats de Société Générale, un résultat record.
Oui, résultat record. 1,8 milliard de profits en l'espace de 3 mois. C'est une progression de plus de 20%, 23,2% précisément, 25% de progression même à périmètre constant, avec la banque de détail qui continue de se distinguer, Société Générale qui annonce ce matin un programme de rachat d'actions exceptionnel de 1,5 milliard d'euros. Hier soir, c'est Airbus qui a rassuré avec des livraisons qui sont en augmentation, 237 au deuxième trimestre contre 195 l'an dernier. Vous avez Vinci également qui a publié ses résultats, avec quand même un effet notable de la nette remontée des prix de l'essence et du diesel. Typiquement, le trafic autoroute a reculé de 2,9%, mais la marge est là, elle est même en progression. Et ça devrait rassurer tout à l'heure à 9h. L'Oréal qui a publié également ses résultats hier avec une croissance supérieure aux attentes, 6,3% quand le consensus attendait 5,7% au deuxième trimestre. Et puis enfin, la française des jeux qui a publié ses résultats. Et là, par contre, c'est en deçà des attentes à cause notamment des hausses d'impôts au Royaume-Uni, en Roumanie, en France. Il faut dire que ces États aujourd'hui cherchent de l'argent et aujourd'hui, c'est un petit peu facile de taxer le segment du jeu. Et par rapport à cela, la française des jeux revoit à la baisse ses prévisions pour cette année.
Merci Étienne Braque. Vous restez sur ce plateau dans un instant pour le débat, mais tout de suite, c'est le plus.
Good morning business, le plus.
Quand la guerre fait les bonnes affaires des industriels français face à la multiplication des conflits, le gouvernement met les bouchées doubles dans la défense et notamment dans les entreprises qui font à la fois du civil et du militaire. C'est le cas de Delair, l'un des principaux dronistes tricolores, qui a vu son carnet de commandes exploser en quelques années. Éline Lefaou.
De la peinture jusqu'à la conception de la carte électronique, plusieurs milliers de drones sont produits dans l'usine chaque année et la gamme est complète. Les appareils vont de 1 à 100 kilos, couleurs et formes identiques, seuls les logiciels changent s'il s'agit de drones civils ou militaires. Une diversité essentielle pour s'adapter à sa clientèle internationale, souligne Bastien Mancini, président de Delair.
On commence à avoir une base d'utilisateurs qui est assez large. On a des drones qui sont utilisés en Afrique dans des conditions assez dures, au Proche-Orient, en Asie du Sud-Est où c'est pas du tout les mêmes conditions, en Europe. On engrange à tout ce retour d'expérience et on essaye de le prendre en compte pour les générations suivantes.
La demande est telle que le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en 5 ans parmi ses clients, de grands opérateurs publics comme la SNCF ou RTE. Mais au global, c'est la défense qui tire les revenus de l'usine de l'air.
Les drones sont apparus comme un outil indispensable dans les conflits armés. Et donc on est passé en 5 ans de 80% dans le civil à 80% dans la défense.
Face à l'instabilité géopolitique internationale, le constat de Clémentine Bouquier, directrice RH de Delair, est clair. L'entreprise doit s'adapter en permanence pour anticiper les futurs besoins.
Aujourd'hui, l'enjeu industriel, c'est plus seulement de concevoir les drones de demain, c'est surtout d'être capable de les produire vite et en volume suffisant. Et pour cela, donc, on doit recruter les bonnes ressources au bon moment. Donc là, on a recruté 150 personnes sur les 15 derniers mois. Donc ça nécessite un gros plan de recrutement et d'adapter nos ressources humaines aussi aux défis de demain.
Pas question pour autant de délaisser la production de drones civils. L'entreprise de l'air compte bien renforcer encore cette activité dès que la réglementation européenne lui permettra. Depuis 2022, Bruxelles a fixé des règles très contraignantes sur l'usage des drones dans le civil. Mais de nouveaux textes sont en cours d'écriture.
Good morning business, face à le chiffre.
On sort des publications dans le luxe et on a vu notamment hier la chute en bourse d'Hermès avec des inquiétudes sur la Chine, moins 11%. Étienne Braque, est-ce que c'est la fin de l'âge d'or du luxe? Pour vous, oui.
Ah bah la question, elle se pose très sérieusement. Moins 11% quand même pour Hermès, on était à 1500 euros ou presque à la clôture. C'est sûr que quand ça se paye 30 fois les profits et qu'il n'y a plus de croissance des profits, hein, puisqu'il y avait un bénéfice qui était stable au premier semestre par rapport à l'an dernier, le marché ne fait pas de cadeaux. Hermès qui souffre notamment du marché chinois, hein, où vous avez une très légère hausse modeste des ventes en Chine sur les 6 premiers mois de l'année. Et ça, c'est quand même un élément marquant et qui interroge et surtout qui fait peur depuis plusieurs trimestres, dans le sens où le marché chinois, c'était le moteur du segment du luxe. Hein. Vous avez en Chine plus de 30% des ventes pour les principaux acteurs du luxe. Et aujourd'hui, un marché qui est à la peine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une clientèle qui cherche des marques locales. Hein. Aujourd'hui, vous avez un consommateur qui cherche un petit peu plus de patriotisme hein, dans ses achats. Fin également de l'ostentatoire. Hein. On cherche du luxe discret, pas quelque chose qui est un petit peu tape à l'œil. Et puis surtout, vous avez des groupes qui ont massivement augmenté leurs prix ces dernières années, notamment depuis le Covid. Et c'était un argument d'ailleurs pour acheter le luxe, hein, c'est-à-dire le fameux pricing power, la capacité à pouvoir augmenter les prix. Vous avez des groupes qui ont fait moins de volume et plus de chiffre d'affaires grâce aux hausses de prix. Bah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de passer ces hausses de prix, que ce soit en Asie, mais également en Europe. Il faut voir que le marché du luxe en Europe, il est au point mort. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un instant. Heureusement, il y a la clientèle américaine qui est là, mais ça ne suffit pas. Et donc, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont un petit peu en difficulté parce qu'ils cherchent des relais de croissance. Alors, ils regardent aujourd'hui un petit peu où se trouve la croissance. Ah bah tiens, peut-être en Inde, mais on voit que le marché indien est compliqué hein, pour les acteurs français du luxe. Et donc, aujourd'hui, bah, ils doivent se contenter d'une légère croissance. Hein. La croissance à deux chiffres, c'est fini, même pour Hermès. Il faut se contenter d'une croissance de 1 à 5%. Alors, c'est pas si mal. Hein. Ils vont vous dire, on a connu ça pendant des années, mais c'est quand même aujourd'hui un tout autre exercice par rapport à ce qu'on a pu voir à la fin de la période Covid.
J'ai lu que ça ne mettrait pas pour autant fin aux listes d'attente pour les sacs Kelly, mais enfin, on verra bien. L'avenir nous le dira. Emmanuel de Chypre.
Vous avez tout dit. Ça ne met pas fin aux listes d'attente pour les sacs Kelly. Non, je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste. On sort quand même d'une période qui était une période d'euphorie. Donc moi, je continue à penser que le luxe vit un âge d'or et qu'au milieu de cet âge d'or, on avait cette période d'euphorie totalement folle qui arrive à sa fin. Mais cette période d'euphorie, c'était quoi? C'était, rappelez-vous, les années post-Covid. Donc, il y avait eu une explosion de l'épargne pendant le Covid. Les gens, ils avaient besoin, finalement, de se faire plaisir, d'acheter autre chose. Il y a eu aussi ce boom spectaculaire, quand même, de la Chine, lors de la réouverture après les confinements. La hausse très forte des patrimoines financiers et immobiliers mondiaux. Et fondamentalement, les fondamentaux de la richesse mondiale, ils restent excellent. Quand vous regardez, le nombre de millionnaires continue d'augmenter partout, les patrimoines financiers battent des records, l'Asie continue d'enrichir des dizaines de millions de personnes chaque année, et on va avoir de plus en plus de millionnaires. Donc le marché du luxe continue de grossir. Alors, Étienne soulève un point, effectivement, qui est important. Le luxe, c'est un marché qui n'a jamais fonctionné sur un seul pays. Et là, effectivement, on avait un très gros pays qui était la Chine. Mais il y a d'autres relais de croissance. Il y a le Moyen-Orient, il y a d'autres pays d'Asie, etc. Alors vous allez me dire, on n'est pas à l'échelle. Et la véritable échelle, et le véritable enjeu, il ne faut pas se voiler la face, c'est le marché indien. Est-ce que l'Inde, finalement, est capable de prendre le relais? Et quand on regarde les fondamentaux économiques de l'Inde, eh ben on se dit qu'elle est au début du cycle qu'a connu la Chine il y a 20 ans. Croissance économique 6 à 7% par an, même échelle de population, un PIB par habitant encore faible mais en forte progression, urbanisation rapide, explosion des revenus dans les grandes métropoles. Donc on a exactement les moteurs qui ont fait que le marché du luxe chinois est devenu un très grand marché. Et puis quand même, Étienne, le luxe, ça reste quand même le secteur qui est le plus capable d'augmenter ses prix. Et ça, c'est quand même une arme absolument extraordinaire. Alors, Étienne dit le luxe ostentatoire, tout ça, machin et tout. Mais Étienne, le luxe, c'est tout sauf ostentatoire. C'est le bling-bling.
Ça dépend.
C'est le bling-bling qui est ostentatoire. Mais le luxe n'est pas ostentatoire. Et puis, franchement, c'est aussi un secteur dans lequel, contrairement à ce que dit Étienne, les barrières à l'entrée sont absolument gigantesques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'improviser comme ça, de faire des sacs à main, de faire des bijoux et tout, pour que ce soit, pour qu'on devienne une légende et une marque de luxe. Et enfin, je termine en soulignant l'aspect patrimonial aujourd'hui du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui investissent dans les produits de l'industrie du luxe, comme on investissait avant dans les marchés. C'est devenu une classe d'actifs.
C'est vrai, on en parle souvent sur cette antenne.
Votre sac Kelly, une fois que vous serez sorti du magasin, il vaudra quasiment le double du prix que vous l'avez acheté si vous le revendez sur le marché de l'occasion.
Je ne suis pas du tout d'accord avec Emmanuel. Très vite.
La clientèle aspirationnelle qui était là pendant le Covid, elle n'est plus là. C'est-à-dire qu'elle s'est fait plaisir, mais aujourd'hui, elle n'a plus les moyens. C'est-à-dire qu'il y avait une clientèle qui était présente en boutique il y a 5-6 ans et aujourd'hui, elle a totalement disparu. Elle ne peut plus aujourd'hui s'offrir ce type de produit. Sur le fait, une marque, c'est là, c'est présent, ça va rester pendant des années. Non, ça ne veut rien dire. Hein. Quand vous regardez certaines marques, et je ne vais pas les citer, mais quand vous regardez leur part de marché, elles se sont considérablement réduites. Et on voit aujourd'hui des nouvelles marques qui partent de pas grand chose et qui gagnent de part des marchés très importantes. Et pourquoi pas aujourd'hui acheter du luxe chinois en Europe ou aux États-Unis, rien n'est tabou. Et puis enfin, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de clients qui cherchent de l'expérience. Entre mettre 600 euros dans des sneakers ou un sac, et bien ils préfèrent mettre 600 euros dans une nuit d'hôtel. Et aujourd'hui, c'est ce luxe expérimental ciel, désolé si je me trompe sur le mot, qui gagne en part de marché.
Merci, merci beaucoup messieurs pour ce débat. Tout de suite le meilleur de Culture IA.
Good morning business, Culture IA.
Et aujourd'hui avec vous Anthony, on parle d'un robot qui fait le buzz depuis quelques jours, capable aussi bien de jouer du piano que de préparer votre omelette. Les images ont été vues des millions de fois sur les réseaux sociaux, elles montrent à quel point les avancées dans le domaine sont fulgurantes.
Oui, parce que c'est vrai qu'elles sont très spectaculaires et vraiment ça vaut le coup aujourd'hui de nous regarder en télé, puisqu'on voit cette paire de mains robotiques vêtues de gants noirs et
bluffant.
Dotées d'une dextérité spectaculaire. Ouais, c'est absolument bluffant. Alors on voit ces mains robotiques taper au clavier, résoudre un Rubik's Cube, jouer du piano, manipuler des pipettes en laboratoire avec un niveau de précision absolument dingue. C'est une main qui a 20 degrés de liberté, qui peut même attraper plusieurs objets à la fois, réaliser des gestes fins, précis, manipuler des objets fragiles, des objets mous, glissants, et le tout assez rapidement. Parce que souvent, quand on voit des démonstrations robotiques, elles sont en accéléré, x5, x10. Là, on est à vitesse réelle. Alors, c'est un peu moins rapide qu'un humain, mais c'est quand même pour un robot extrêmement rapide. Et cette prouesse technologique, eh bien, on la doit à une start-up qui s'appelle Genesis AI, qui a été créée par un Français, par un ancien de Mistral, il y a un an. Et ce qu'ils ont mis au point, cette entreprise, eh bien, c'est ce qu'on appelle un modèle de fondation. C'est pas tant le robot ou la main robotique elle-même que le cerveau qu'il y a derrière, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui permet à ces robots de réaliser des tâches complexes. C'est-à-dire que ces robots, on n'a pas besoin de les programmer pour réaliser une tâche, visser, préparer un café. Non, en fait, ces robots, ils vont apprendre en regardant faire les êtres humains. On va leur apprendre en leur montrant par exemple des milliers d'heures d'humains qui font des Rubik's Cube, on trouve des vidéos sur YouTube, ils vont analyser le geste millimètre par millimètre et ensuite ils vont être capables eh bien, de le reproduire. Et c'est ça la prochaine grande révolution de l'intelligence artificielle, c'est plus des IA seulement qui savent générer du texte, de l'image, c'est des IA qui sortent de l'écran et qui commencent à appréhender le monde physique et à s'y intégrer d'une certaine manière.
Ouais, c'est pour ceux qui ont les images en télévision avec nous ce matin, les gestes sont ultra fins.
C'est ça.
On a vraiment l'impression que c'est un humain. Il n'y a plus le côté saccadé du
Exactement.
Robot.
Exactement.
Quand on imite le robot, ça ne marche plus.
Non, c'est ça. Le C3PO, c'est plus ça. Maintenant, on est vraiment sur du quasi-humain. C'est ce qu'on appelle de la motricité fine et on y est réellement.
Bon, ça ouvre des perspectives énormes. On va peut-être avoir des robots dans un peu toute notre vie pour faire toutes sortes de tâches.
Oui, absolument. Alors, dans l'une des vidéos, moi, c'est celle qui m'a le plus bluffé. Je pourrais passer des heures devant, mais on le voit qui prépare une omelette, en fait, ce robot. Alors, c'est incroyable. On le voit qui casse les œufs, qui les met dans la poêle, qui coupe les tomates, parce que c'est une omelette aux tomates. Et en fait, ça montre bien en fait, le niveau de précision. C'est-à-dire que le fait de se saisir d'un œuf, pour un être humain, c'est facile. C'est presque intuitif et ça montre bien d'ailleurs à quel point notre cerveau est une merveille d'évolution biologique. Mais pour un robot, appréhender la bonne force de préhension pour ne pas casser l'œuf, c'est extrêmement complexe. Et ça montre bien qu'en termes de perspective, eh bien, on pourrait avoir demain des robots qui effectivement font la cuisine, peuvent monter un meuble à notre place, peuvent s'occuper d'une personne âgée, c'est-à-dire ce fantasme du robot majordome dont on parle régulièrement, qui pourrait s'inviter dans nos vies, vie personnelle et vie professionnelle, eh bien, on s'en approche de plus en plus. Je vous dis pas que c'est pour demain, mais les avancées dans ce domaine, elles sont absolument fulgurantes. Alors, même s'il faut tempérer un tout petit peu, parce que entre une démonstration dans un environnement expérimental absolument parfait, avec une lumière parfaite, avec on peut s'y reprendre plusieurs fois, et puis un vrai plan de travail où vous avez peut-être votre chat qui va monter dessus, et puis il y a des trucs qui traînent, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est ce fossé entre la vie réelle et les situations de laboratoire qu'il va falloir combler dans les mois qui viennent.
Rapidement, Anthony, vous le disiez, c'est une innovation française, ça remet la France dans la course à la robotique?
Bah pas vraiment, c'est un peu une victoire douce amère, parce que c'est comme souvent, ces scénarios, on a des chercheurs qui sont formidables, c'est des Français, oui, mais la boîte a été créée aux États-Unis avec des fonds pour la majorité américains. On a quand même Xavier Niel, qui fait partie des investisseurs de Genesis AI, c'est un scénario qu'on connaît malheureusement par cœur, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a des talents très clairement dans le domaine de la robotique humanoïde.
Good morning business, le monde qui bouge, l'interview.
C'est Ulrich Bouna qui est avec moi ce matin, chercheur chez Eurocreative. Bonjour, merci d'être avec moi. C'est vrai que le monde a les yeux tournés vers ce conflit au Moyen-Orient, mais il y a ce qui se passe aussi en Ukraine. Encore une alerte aux missiles russes cette nuit à Kiev, ça veut dire que les combats continuent. Ils se sont même intensifiés au mois de juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement où il en est ce conflit, Ulrich?
Le conflit continue toujours sur la ligne de front, donc l'essentiel des combats se passe dans l'est de l'Ukraine, au Donbass, ou notamment dans la ville de Konstantinivka, où les Russes essayent de progresser et progressent très très laborieusement, perdent énormément d'hommes. Et après, effectivement, vous avez des frappes très régulière, puisque le front se débloque pas trop, les deux protagonistes essayent de frapper en profondeur pour déstabiliser un petit peu l'arrière. Et donc, on voit effectivement, pas plus tard que cette nuit, des frappes de missiles balistiques et des frappes de missiles de croisière russes sur les principales villes ukrainiennes, notamment Kiev et Lviv. Mais ce qui est nouveau, c'est cette contrepartie, c'est-à-dire que les Ukrainiens désormais ont cette capacité à envoyer des drones très longue distance sur les raffineries ou sur l'Amazone russe en profondeur en Russie.
Volodymyr Zelensky était à la Maison-Blanche cette semaine, il a rencontré Donald Trump. Est-ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait? Il voulait notamment des systèmes antimissiles.
Alors, il l'a à moitié obtenu, c'est-à-dire qu'il a donc obtenu cette licence qui lui permettra de produire ses propres missiles Patriot, qui sont la seule arme efficace contre les missiles balistiques. Donc ça, il l'a obtenu, mais ça résoudra le problème probablement dans 2 ans. Il faut grosso modo à peu près 1 an pour construire la chaîne de montage et encore 1 an pour les produire. En revanche, il a besoin de 300 missiles Patriot probablement pour tenir l'hiver, et ça va être très compliqué de les obtenir parce que on estime que les Américains en ont tiré à peu près 1500 en Iran. Il leur en reste à peu près 1000, donc vous voyez que 300, c'est grosso modo le tiers du stock américain, donc ça semble relativement probable qu'ils les aient.
On est là-dedans, on est dans le moment où on compte les missiles.
Oui, complètement. En tout cas, enfin, ça dépend des capacités, mais sur les capacités anti-aériennes, anti-balistiques, oui. Les Américains et leurs alliés au Moyen-Orient en ont énormément utilisé et continueront d'en utiliser parce que les Iraniens continuent à tirer sur le Moyen-Orient. Donc effectivement, il y a une pénurie mondiale de patriotes.
Il y a quelques jours, l'Ukraine a frappé un navire iranien reliant Téhéran à Moscou, navire qui contenait des armes, me semble-t-il. Quelle était la stratégie derrière cette attaque? Parce que là, ce sont les deux conflits qui sont en train de se croiser.
Alors effectivement, les deux conflits se croisent et c'est logique, hein, parce que l'Iran aide Moscou en Ukraine et Moscou aide l'Iran à répliquer contre les Américains au Moyen-Orient, notamment en termes d'imagerie satellitaire. Et donc effectivement, l'objectif des Ukrainiens en frappant ce navire en mer Caspienne, c'était probablement justement de montrer à Donald Trump que les deux sont liés et qu'effectivement aider l'Ukraine, c'est en quelque sorte lutter contre l'Iran. Je suis pas sûr que le message soit complètement passé à Washington, mais en tous les cas, c'était ça la stratégie
ukrainienne. Oui, parce que Téhéran aurait étudié une frappe contre un port ukrainien en mer Noire en représailles avant d'y renoncer à la suite d'efforts diplomatiques. Mais est-ce que ça veut dire que le conflit pourrait s'étendre réellement si les Iraniens le décident?
Réellement, non. Là, on parlait effectivement d'une frappe éventuellement symbolique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, l'Iran a soutenu l'effort de guerre, c'est moins important maintenant, mais l'Iran a soutenu l'effort de guerre de Moscou en lui fournissant notamment ces fameux drones Shahed qu'ensuite les Russes ont améliorés, mais ça a donné quand même un avantage ponctuel assez important à la Russie, qui a été la première à avoir ces espèces de drones kamikazes longue distance avec des charges explosives assez importantes. Donc dans tous les cas, oui, l'Iran est associé en fait à l'effort de guerre russe en Ukraine, au même titre que la Corée du Nord a fourni des millions d'obus et que la Chine fournit une partie de l'industrie qui sert à fabriquer des armes en Russie.
Quoi qu'il arrive, on voit que Volodymyr Zelensky reste très présent sur la scène internationale. En France, il a proposé d'envoyer des spécialistes ukrainiens pour soutenir les secours français sur les incendies en Gironde. C'est symbolique, mais ça témoigne du renforcement entre les liens, ou en tout cas de cette volonté de rester visible.
Ah oui, complètement. Mais disons que pour Volodymyr Zelensky, rester visible à l'international, c'est continuer à avoir de l'aide international, c'est continuer à avoir des partenariats industriels dans la défense. Donc tout ça, c'est fondamental pour aider à l'Ukraine à tenir probablement les prochains mois, le prochain hiver qui va être encore plus dur, etc. Mais effectivement, et on sent par rapport à la France un vrai rapprochement, Volodymyr Zelensky a appelé effectivement le président français pour le débriefer dans l'avion qu'il ramenait de Washington. Donc ça montre que les deux sont extrêmement proches. Ça s'est symbolisé aussi le 14 juillet. Il y a une volonté probablement des deux côtés de bâtir véritablement, une alliance au minimum industrielle, militaire très forte entre les deux pays.
On le sait, et là je vais vous reparler du conflit au Moyen-Orient, mais Donald Trump est englué dans un agenda politique avec les midterms au mois de novembre. Il essaye de mettre fin à ce conflit dans lequel il s'est lancé. Il y a très peu de chances que ça marche. Il y a tellement de choses à négocier que ça n'avance pas, notamment dans le détroit d'Hormuz. On est dans une situation où tout cela s'enlise. Vous parlez de l'hiver prochain pour ce conflit ukrainien. Ça veut dire que là, on est encore parti pour des mois et des mois de conflit.
Probablement, mais parce qu'en fait, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, on a deux camps qui estiment qu'ils n'ont pas de besoin impérial, ou impérieux plutôt, besoin impérieux de négocier en fait en quelque sorte une cessation des hostilités. Dans le cas de l'Ukraine et la Russie, finalement l'Ukraine ne cédera pas sur sa capacité à résister et à défendre son indépendance. Les Russes estiment qu'ils ont le temps pour eux et qu'ils arriveront à conquérir le Donbass d'une façon ou d'une autre. Et entre l'Iran et les États-Unis, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les Iraniens n'ont certainement pas envie de capituler aux demandes américaines, notamment sur le nucléaire, n'ont pas envie de lâcher le contrôle du détroit d'Hormuz qu'ils ont acquis depuis le 28 février de façon militaire. Et d'un autre côté, les Américains estiment que finalement finalement, ils peuvent continuer à maintenir la pression sur Téhéran d'un point de vue économique en espérant que le régime, finalement, cède parce qu'il n'aura plus d'argent. Donc, on voit bien que dans un cas comme dans l'autre, les protagonistes n'ont pas d'incentive, on va dire, à négocier très, très rapidement. Et c'est ça qui fait que les conflits s'enlisent.
Merci Ulrich Bouna d'être venu ce matin, chercheur chez Eurocreatif dans la matinale de l'économie. Dans un instant, ce tollé dans le foot, cette décision de Gianni Infantino de vouloir vendre des parts de la Coupe du Monde. On y revient dans un instant.
Good morning business. Le journal.
Les titres à 7h30. Gianni Infantino veut vendre des parts de la Coupe du Monde. La croissance française au deuxième trimestre vient de tomber. On va y revenir. Et Stellantis continue à se séparer de son ancienne gouvernance. Et pour commencer ce tollé dans le foot, la Coupe du Monde à peine terminée, le président controversé de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà un nouveau projet dans les cartons, celui de vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs extérieurs, dont des proches de Donald Trump. Projet qui fait hurler le monde du football. L'UEFA se réunit en urgence aujourd'hui, et même au-delà. Justine Vassogne.
La Coupe du Monde n'est pas un produit, s'insurge Andy Burnham sur X. Pas touche à notre sport, s'exclame la Commission européenne. Le projet de la FIFA ne passe pas. L'idée de Gianni Infantino, créer une société pour gérer les activités commerciales de la Coupe du Monde, la diffusion des matchs, la billetterie. Une société qui porte déjà un nom, FIFA Forward Enterprise, et qui pourrait ouvrir jusqu'à 20% de son capital à des investisseurs privés. À la tête de ce groupe d'investisseurs, le fonds Thrive Capital, géré par Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump. La relation étroite entre le président de la FIFA et le président des États-Unis a pris une dimension financière qui porte un grave préjudice au football, s'étrangle Sepp Blatter, le prédécesseur de Gianni Infantino. Avec cette opération, ce dernier espère lever 4 milliards de dollars et promet à chaque fédération membre de la FIFA dont il a besoin pour faire valider son projet un chèque de 20 millions de dollars. Gianni Infantino, selon le Times, se serait aussi assuré un avenir puisqu'il aurait déjà négocié avec Joshua Kushner de prendre la tête de FIFA Forward Enterprise en 2031.
Et écoutez la réaction de Gianni Infantino tout de suite.
C'est une occasion en or de donner un coup d'accélérateur au développement du jeu à l'échelle mondiale. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'une proposition et non d'une obligation.
Voilà, je propose, vous disposez. Dans l'actualité également, la croissance française au deuxième trimestre. Emmanuel Le Chypre, ça y est, c'est tombé il y a une minute.
C'est tombé il y a une minute et allez, on peut pousser un petit ouf de soulagement.
C'est un tout petit optimisme.
Oui, parce qu'en fait, c'était un trimestre qui était un peu le trimestre de tous les dangers. Hein, il faut rappeler que au cours des derniers trimestres, au cours des dernières semaines, on avait eu des révisions en baisse de la croissance française. La Banque de France avait fait l'effet d'une douche froide avec son 0,5% sur l'année. Après, il y avait eu la révision de 0,9 à 0,7 de Bercy. Il y avait l'INSEE qui nous avait dit 0,7. Et le pessimisme de la Banque de France reposait notamment sur un mauvais deuxième trimestre. Elle nous avait dit il y aura zéro de croissance au deuxième trimestre. Or, la bonne surprise, c'est qu'on a 0,2% de croissance pour l'économie française au deuxième trimestre, ce qui, effectivement, laisse toutes les chances à ce qu'une prévision plus optimiste, donc autour de 0,7% se réalise. Alors, cette croissance, elle résiste plutôt pas mal. Ça va bien du côté du commerce extérieur. La consommation augmente, mais un peu pour de mauvaises raisons.
0,4%.
Ben oui, mais sauf que c'est en grande partie lié à la consommation d'énergie.
Ouais.
Et à l'augmentation aussi de la facture énergétique. Donc, c'est un trimestre où finalement l'économie française a tenu, malgré effectivement cette envolée des prix des carburants et le déclenchement de la guerre en Iran.
On y reviendra plus en détail avec vous, Emmanuel Le Chypre, tout à l'heure. Merci. Les résultats d'entreprise, on attend ceux de Stellantis à 8h, le constructeur qui, en attendant, continue de faire le ménage dans son organigramme et à se séparer d'anciens lieutenants de Carlos Tavares et cadre historique de PSA. Justine Vassogne, Julien Thibault.
Le Stellantis d'Antonio Filosa n'a plus grand-chose à voir avec celui de Carlos Tavares. Au sein de la leadership team du constructeur, sur 15 membres, on ne trouve plus désormais que 3 anciens de chez PSA et seuls 4 Français. Le centre de gravité a basculé, les faits sont là, reconnaît-on en interne. Mais l'enjeu n'est pas ici, explique-t-on. Plutôt que de parler de nationalité, il faut se battre pour défendre les positions de Stellantis en Europe et en France, glisse-t-on encore. Pour sauver ses usines, le groupe mise désormais sur des partenariats avec des constructeurs chinois à Rennes, à Madrid ou encore soir à Saragosse. Symbole de cette nouvelle stratégie, pour la première fois, un Chinois entre dans l'équipe de direction du constructeur, Tianshu Xin, en charge de la co-entreprise avec Leap Motor, et qui va également piloter les régions Chine et Asie-Pacifique. À la rentrée, d'autres mouvements sont sans doute à attendre. Dans son plan stratégique, Antonio Filosa a voulu hiérarchiser ses 14 marques, en placer certaines sous tutelle. Lancia est désormais chapeautée par Fiat et DS par Citroën, ce qui laisse augurer de nouveaux changements.
Beaucoup de résultats d'entreprise, on attend les GAFAM qui seront à l'honneur aujourd'hui à Wall Street. On va faire un point très complet avec Étienne Braque dans un instant dans le point marché. Et puis, la situation dans le sud-ouest après plusieurs vagues de chaleur. Certains maraîchers ont déjà perdu jusqu'à 50% de leur production des légumes d'hiver. Entre semis qui ne lèvent plus, arrosage intensif et hausse des coûts, les conséquences se retrouvent aussi sur les prix. Cette chaleur qui a des conséquences sur tout le territoire, notamment en Normandie. Explication Clara Bidot et BFM Normandie.
À Étenu, en Seine-Maritime, au jardin de la Bise, les fortes chaleurs ont déjà fait des dégâts. Mathias Lucas, maraîcher, dresse un premier bilan de sa saison.
Au niveau du haricot, il y a eu un petit peu de galère quand même en début de saison. Surtout les coups de chaud successifs, ça a fait avorter pas mal de fleurs et donc pas mal de production. Là, c'est revenu un petit peu plus fort depuis la semaine dernière. Niveau du concombre, en gros, c'est un petit peu la même chose. Pas mal de fleurs avortées, donc pas mal de concombres en moins suivant les semaines.
Pour continuer à produire malgré les épisodes de chaleur de plus en plus nombreux, les maraîchers n'ont plus le choix. Ils doivent repenser leur façon de travailler.
Nous, en tout cas, on essaye de gérer au mieux l'irrigation sous les serres. Donc aujourd'hui, c'est de faire en fonction des besoins de la plante aussi. C'est de pailler un maximum le sol, donc que ce soit avec des toiles tissées ou du paillage organique aussi, ça permet de conserver un maximum l'humidité dans le sol.
Et face à des récoltes plus faibles, les prix sont de plus en plus élevés. Selon une étude de l'association Famille Rurale, les légumes coûtent en moyenne 10% plus cher que l'an dernier. De quoi décourager les consommateurs.
C'est exagéré. Même les fruits qu'on achète, au bout de 3 jours, ils pourrissent. 19 euros, je vais pas acheter des cerises.
Pour les experts, les fortes chaleurs ne sont qu'un défi de plus pour une filière où le prix des légumes frais a bondi de 62% en 10 ans.
7h38, les marchés. On a beaucoup de choses à se dire ce matin, oui, Étienne Braque. Les GAFAM déjà seront à l'honneur aujourd'hui à Wall Street.
Oui, les GAFAM qui seront à l'honneur avec les résultats ce soir d'Apple et d'Amazon. Hier soir, on a eu un avant-goût avec notamment Microsoft et Meta, avec Microsoft qui quand même gagnait près de 7% hier soir en après-bourse. Il faut dire que la croissance était largement au-delà des attentes, que ce soit sur le chiffre d'affaires, mais surtout sur la profitabilité. 35,8 milliards de 3 mois, grâce notamment à la très bonne dynamique d'Azure. 43% de croissance du chiffre d'affaires pour le cloud de chez Microsoft. Dans le même temps, il y avait la Fed également hier soir, la banque centrale américaine, avec Kevin Warch qui est resté droit dans ses bottes, qui a tenu un discours très ferme par rapport à l'inflation qui est largement au-delà de la cible des 2%. Et d'ailleurs, il dit « J'ai voulu un débat vivant, je l'ai eu », au point même que sur les différents membres de la Fed, vous avez 3 membres qui ont voulu remonter les taux hier. Ce n'est pas arrivé depuis 2016, le fait qu'il y ait 3 voix dissidentes. Tout cela a un petit peu inquiété les investisseurs. Il faut quand même voir que le Dow Jones a perdu plus de 2% hier soir à la clôture, plus de 1,7% de baisse pour le S&P 500, avec surtout un marché obligataire qui s'est tendu. Le 30 ans était sur un plus haut de 2007 à 5,22, le 10 ans à 4,69, et donc bien sûr tout cela a pesé un petit peu les perspectives avec des résultats d'entreprise qui sont passés au plan arrière.
On parle aussi de Schneider Electric qui relève à l'instant ses prévisions, oui. Étienne.
Hier, c'était Legrand qui revoyait à la hausse ses prévisions. Ce matin, c'est Schneider Electric. Ces deux acteurs qui sont très exposés à l'intelligence artificielle parce qu'ils vendent leur matériel électrique dans les data centers, notamment aux États-Unis. Et tout cela fait flamber le bénéfice net de plus de 30% au premier semestre. 2,4 milliards d'euros pour Schneider Electric. Vous avez beaucoup de résultats d'entreprise à arbitrer ce matin, avec notamment Société Générale qui a publié ses résultats à 6h30. Groupe qui annonce un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros après avoir annoncé un bénéfice record au deuxième trimestre à 1,8 milliard. C'est quand même une hausse de 25% à taux de change constant. Vous avez également Veolia qui publie ses résultats à l'instant. Accor, nous en parlerons dans le journal de 8h. Quand de son côté, Capgemini revoit également à la hausse ses perspectives pour cette année. Hier, c'était Soprasteria notamment et Alten qui avaient gagné entre 15 et 19% à la clôture parce que ces groupes sont un petit peu plus optimistes pour la deuxième partie de l'année. Ça avait profité à Capgemini qui était en hausse de 5% et il faudra bien sûr suivre ce titre tout à l'heure à 9h.
Merci beaucoup Étienne Braque. Tiens, vous parlez d'intelligence artificielle, on va en parler aussi avec Maurice Lévy, PDG de ce local group qui est avec moi dans le grand entretien. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien, c'est Maurice Lévy qui est avec moi ce matin, PDG de Solocal Group, président d'honneur aussi de Publicis Group. Merci beaucoup d'être dans la matinale de l'économie.
Merci à vous.
On va parler de ces résultats déjà qui ont été publiés. Un chiffre d'affaires en recul sur un an à 149,5 millions d'euros au premier semestre, 8,9% de moins que sur la même période en 2025, mais un retour à la croissance entre le premier et le deuxième trimestre, le carnet de commandes qui augmente de 7,5% et vous confirmez vos objectifs pour 2026.
Absolument, nous avons un travail considérable à faire et pour l'instant nous obtenons quelques fruits. Il y a des frémissements très intéressants, donc le chiffre d'affaires est encore en recul, mais un recul qui baisse, c'est-à-dire qui se tasse. Et de ce fait, nous avons une amélioration de tous nos fondamentaux. La première chose à noter, c'est effectivement, et je vous remercie de l'avoir relevé, c'est le deuxième trimestre qui, pour la première fois, est en hausse séquentielle par rapport au trimestre précédent. Alors, tout ceci est très bon signe. Il y a aussi un excellent signe, c'est la remontée dans le classement de Page Jaune, avec une remontée de son audience, et Page Jaune, après avoir été dans les profondeurs des classements, au-delà de 60, puis après 56, 49, 46e site le plus fréquenté de France, et une croissance qui de son audience qui monte avec une transformation, puisque Page Jaune devient aussi le lieu pour avoir des actus, des informations de tous les jours, de tout ce qui se passe localement, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan de la vie locale.
Ça veut dire qu'en plus de la numérisation de vos clients, les TPE, les PME, vous allez devenir une sorte de média local.
Absolument. C'est exactement cela. Nous pensons que la vie de tout individu est une vie locale, d'abord, avant tout. On vit dans un quartier, on vit dans un village, on vit au milieu des siens, et on fréquente les commerçants, les artisans du coin. Et donc, c'est très important de montrer, effectivement, la vie quotidienne des gens et de leur apporter toutes les informations sur leur cité, sur ce qui se passe chez eux. Et de ce fait, on renforce le lien. Et comme on joue énormément sur le tissu des TPE et PME qui sont vraiment ce qui fait vibrer et qui est la vitalité de la France, nous leur apportons toutes sortes d'outils qui leur permettent d'être compétitifs dans le monde d'aujourd'hui.
Outils qui vont aller progressivement vers et avec l'intelligence artificielle. Vous voulez faire de Solocal une IA compagnie. Concrètement, ça va être quoi chez ses clients, ces petites et moyennes entreprises?
C'est déjà le cas. On a déjà des solutions pour certaines verticales, comme on dit, c'est-à-dire pour certaines professions, où nous réunissons toutes sortes d'informations et en fonction de l'entreprise, nous émettons des posts, nous mettons de la communication spécifique et tout ceci automatiquement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va rechercher les informations du secteur, les informations de la géolocalisation et en même temps les informations de l'entreprise elle-même. À partir de là, elle va former des messages qui vont être diffusés de manière automatique sur les réseaux sociaux et de ce fait aider l'entreprise à conquérir de nouveaux clients.
L'intelligence artificielle, c'est votre dada depuis quelques temps évidemment.
Oui.
Vous mettez votre énergie là-dessus au niveau de Solocal, mais aussi au niveau plus large. Vous appelez la France et l'Allemagne à prendre la tête d'un fonds européen dédié à l'IA, doté de 100 milliards d'euros, afin de financer l'émergence des champions européens. Est-ce qu'on a encore une place à prendre entre la Chine et les États-Unis? On voit les montants astronomiques levés en ce moment. Est-ce qu'on a encore notre place, Maurice Lévy?
Je pense que oui, et je pense qu'il y a des solutions qui sont beaucoup moins coûteuses que les solutions américaines où on crée des data centers à 100 milliards et on met ensuite des moyens colossaux pour exploiter toutes les données. Il y a des solutions d'ailleurs chinoises qui sont beaucoup plus astucieuses, et je pense que en Europe, nous avons la denrée la plus rare, qui est le talent. Mmh. Nous avons formé dans nos universités, dans nos grandes écoles, que ce soit en France, en Allemagne ou dans d'autres pays européens, des talents considérables, et qui d'ailleurs, pour beaucoup, sont dans ces grandes entreprises américaines. Et je pense que nous avons la capacité de prendre de nouvelles initiatives. La bataille n'est pas perdue, elle vient juste de commencer. Et d'ailleurs, on constate tous les jours avec les nouveaux outils qu'il y a des opportunités. Il y a aujourd'hui un nombre incroyable de LLM, hein, ces fameux modèles qui font de l'IA générative, et il y a aussi Amilab avec Yann LeCun qui est en train d'explorer une nouvelle voie avec ce qu'on appelle les world models. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens. Si vous avez les talents et que il n'y a pas les ressources capitalistiques pour les soutenir, on n'y arrivera pas.
On ne peut pas les garder, effectivement. Un dernier mot sur ce qui se passe en Gironde. Des milliers d'hectares brûlés, 220 000 personnes évacuées, des entreprises qui ont beaucoup perdu. Elles sont soutenues actuellement, mais vous avez décidé d'agir vous aussi en créant un fonds. Pour qui? De quel montant? Comment ça va fonctionner, Maurice Lévy?
Alors, effectivement, nous avons été, comme tout le monde, bouleversés par ce qui se passe en Gironde. Il se trouve que nous avons des bureaux sur le local Page Jaune, des bureaux au Hayan, et nous avons vu ces bureaux fermés, et nous avons vu des familles travaillant chez sur le local Page Jaune qui ont été obligées d'être évacuées. Ceci nous a amené à trouver des solutions internes, et puis en réfléchissant à ce qui se passait pour les commerçants et les artisans, on s'est dit il fallait faire quelque chose. Et donc nous faisons un appel aux dons pour soutenir spécifiquement les petits commerçants et les artisans, parce qu'ils sont le tissu économique de la France.
On l'a vu, hein, il y a une vraie solidarité là en ce moment, entre ces acteurs-là.
Exactement, et donc l'argent qui sera collecté, nous le doublerons, c'est-à-dire que quelle que soit la somme qui aura été collectée, nous abonderons d'une somme équivalente, et nous verrons avec les mairies et avec des associations comment le distribuer de manière juste pour tous les artisans et les commerçants qui ont été sinistrés. Mmh. Et c'est un crève-cœur de voir ce qui se passe. Et en même temps, c'est très encourageant de voir qu'il y a un réveil de la solidarité. Vous voyez des agriculteurs, vous voyez beaucoup de gens qui sont en train de prendre des initiatives. Il était donc normal, puisque Page Jaune est au cœur de la vie de toutes ces entreprises. Les gens imaginaient que Page Jaune, c'était un peu fini. Non, Page Jaune existe et fortement, et vient donc en soutien à ces entreprises qui sont dans la souffrance. Nous espérons bien continuer à les aider avec tous les développements que nous préparons pour l'avenir.
Donc les dons seront doublés, c'est ça qui est effectivement très intéressant. Pour donner, on se rend où, Maurice Lévy?
Alors il y a un lien
sur votre page, sur le groupe,
oui, sur local. Sur Page Jaune, oui. Il est indiqué, donc le lien est indiqué, et on c'est Solidarité Page Jaune, et puis sur local, et les gens peuvent donner ce qu'ils veulent et nous doublerons la somme.
Merci beaucoup Maurice Lévy d'être
venu
ce matin, PDG de ce local groupe, dans la matinale de l'économie. Le monde qui bouge tout de suite.
Good morning business, la matinale de l'économie.
Les grandes puissances qui font face à un même défi, les populations qui font de moins en moins de bébés. Europe, Chine, Inde, la chute de la natalité devient un enjeu économique et géopolitique majeur. Explication analyse à Capellini, Mathieu Jolivet.
L'Europe s'inquiète de son renouvellement démographique. Les jeunes Européens font de moins en moins de bébés. Le continent est en train de vieillir. Mais les Asiatiques sont eux aussi concernés par ce ralentissement démographique. Annalisa, c'est un véritable défi.
Oui, et il concerne en particulier les Indiens, Mathieu, parce que l'Inde est le pays le plus peuplé au monde, mais sa croissance s'est enrayée. C'est-à-dire que pour la première fois, le taux de fécondité en Inde est tombé en dessous du seuil de renouvellement, c'est-à-dire le seuil qui permet de maintenir la population au même niveau, voire de l'augmenter. Ce seuil, c'est un chiffre précis, il faut 2,1 enfants par femme pour maintenir la stabilité démographique d'un pays à long terme. Eh bien, en Inde, ce chiffre est tombé à 1,9 enfants par femme. C'est très étonnant quand on sait que dans les années 2000, les Indiens avaient en moyenne 3 enfants chacune, et dans les années 60, il y avait près de 6 enfants par femme, 5,7 enfants par femme en Inde, ce qui a expliqué que pendant très longtemps, cette croissance si rapide de l'Inde.
Et pourtant, Narendra Modi, le Premier ministre indien, le disait lui-même, il craignait encore en 2019 une explosion démographique. Ça fait plus d'un demi-siècle que l'Inde tente de ralentir, de freiner cette croissance démographique. Dans les années 60, le slogan qui était promu par les autorités indiennes, c'était « 2 ou 3 enfants, ça suffit ». Donc on était loin des 6 enfants par femme des années 60 dont tu viens de nous parler, Annalisa. Donc on comprend que pour les autorités indiennes, il faut tout faire pour freiner cette bombe démographique. C'est même allé jusqu'à des méthodes assez effrayantes. Dans les années 70, des millions de jeunes femmes indiennes, souvent issues des milieux les plus défavorisés, ont été stérilisées de force. Et aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quelque part, les autorités indiennes ont atteint leur but puisque les Indiens font moins d'enfants. Les choses ont aussi évolué depuis les années 60. Les jeunes femmes indiennes disposent désormais d'un meilleur accès à la contraception, d'un meilleur accès à l'éducation, et ça, ce sont deux facteurs qui contribuent aussi énormément à faire baisser la natalité. Il y a aussi une dernière raison, même si elle paraît assez contre-intuitive, c'est le système de santé indien qui s'est énormément modernisé, amélioré ces dernières décennies, et donc le taux de mortalité infantile est en forte baisse en Inde, et donc les femmes indiennes ont moins besoin de faire beaucoup d'enfants, car la mortalité et moins un danger pour elle.
Le problème, c'est que ces politiques, elles ont peut-être un peu trop bien fonctionné, donc l'Inde risque finalement de trop ralentir sa croissance démographique, alors même qu'elle a grandement besoin d'une population encore dense. Tout d'abord, il y a sa compétition contre son grand rival régional, c'est-à-dire la Chine. L'Inde a récemment dépassé la Chine en devenant le pays le plus peuplé du monde, et dans la logique du choc de puissance, c'est essentiel d'avoir une population qui grandit, qui se renouvelle, et surtout une population qui est jeune. Et puis, il y a une question d'équilibre interne, parce que la baisse de la natalité n'est pas égale partout en Inde, elle est au contraire très liée à la géographie. Dans les états du sud, qui sont plus développés et mieux armés économiquement, eh bien le taux de fécondité baisse beaucoup plus vite, il se rapproche même du taux de fécondité de l'Europe, avec 1,4, 1,6, 1,5 enfants par femme, ce qui signifie qu'à terme, les États du sud de l'Inde auront moins de poids politique, donc moins de votes, moins de représentation dans les instances centrales, moins de voix, tout simplement.
Tu parlais de la Chine à l'instant, et bien en Chine aussi, le défi démographique est de taille. Ça va faire 3 ans que la population totale chinoise est en train de régresser. Ils sont aujourd'hui 1,4 milliard, et là-bas en Chine, tout est bon aussi pour inciter à plus de naissances. Ils multiplient des mesures comme des primes en cash à la naissance, des subventions au logement, des crèches subventionnées. Début janvier, il y a même eu les préservatifs en Chine qui ont été taxés de 13%, ce qui a déclenché à l'époque un mélange de moquerie et de colère sur les réseaux sociaux, principalement sur Weibo. Mais la réalité, c'est que toutes ces aides chinoises sont loin de compenser le coût de l'éducation. 75 000 dollars pour élever un enfant jusqu'à ses 18 ans, ça c'est un vrai frein pour faire des bébés en Chine. En 2024, la Chine a enregistré un léger rebond démographique, il faut signaler, mais ce sursaut, il semble en fait passager. Il s'explique surtout à l'année du dragon, qui est celle qui a suivi le confinement hard corps dû au Covid, et à ce moment-là, eh bien, les Chinois ont fait plus de bébés temporairement.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandois.
Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. On parlera des résultats d'entreprise après le luxe. Il y a la deuxième salve de GAFAM, résultats supérieurs aux attentes pour Microsoft, des revenus publicitaires records pour Meta. Mais c'est le grand écart, on va vous expliquer tout ça dans un instant avec Étienne Brack. Il y a énormément de publications en ce jeudi matin. Et puis, on reviendra sur la situation en Gironde. Les pompiers sont toujours sur le front. Les premières retombées économiques commencent à émerger dans les cultures, mais aussi dans l'hôtellerie qui est en première ligne. La saison est-elle perdue? On posera la question à François-Xavier Roux dans ce journal. Dans la prochaine heure, mes invités, on parlera d'un son de qualité, d'une meilleure rémunération des artistes. C'est Qobuz qui tente de se faire une place de choix dans l'univers du streaming musical dominé par les géants Spotify et Deezer. Son patron, Georges Fornet, sera dans la French Tech à 8h15. Et puis alors que les yeux sont tournés vers le Moyen-Orient, est-ce que le conflit est en train de s'étendre à l'Ukraine? On va parler de la stratégie de Volodymyr Zelensky à 8h20 avec Ulrich Bouna. Ce sera dans Le Monde qui bouge, la matinale de l'économie. Ça continue, soyez les bienvenus.
Good Morning Business, le journal.
La suite des publications, il y a eu Alphabet la semaine dernière, deuxième vague de résultats pour les GAFAM, Étienne Brack, Microsoft et Meta hier soir, c'est le grand écart. Une croissance des profits de 31% pour Microsoft au deuxième trimestre et de l'autre, moins 14% chez Meta.
Et ça se voit en bourse en après-bourse. Plus 9 d'un côté, moins 7 de l'autre, avec donc Microsoft qui annonce une très forte croissance, notamment chez Azure, hein, c'est sa division cloud, plus 43% pour les ventes de cloud chez Azure, quand le consensus s'attendait à 40%. In fine, vous avez un profit qui frôle les 36 milliards au deuxième trimestre, 35,8 précisément, avec notamment un nombre de licences sur 365 copilotes qui est là aussi largement au-delà des attentes. Il faut voir que le groupe avait vendu 20 millions de licences au premier trimestre. Au deuxième trimestre, c'est plus de 30 millions. Et ça, ça rassurait les analystes dans le sens où depuis plusieurs mois, depuis plusieurs trimestres même, vous avez des analystes qui s'inquiètent sur comment aujourd'hui on finance les projets d'intelligence artificielle. Bon, en tout cas, là, Microsoft a prouvé hier qu'il arrivait en partie à financer ses capex via la vente d'abonnements auprès des entreprises. Il ne faut pas oublier que Microsoft souffre en bourse, notamment depuis le début de l'année, moins 18%. Et donc, ce titre devrait logiquement reprendre un petit peu de hauteur tout à l'heure à 15h30 à l'ouverture de Wall Street.
Et donc Meta en baisse de plus de 7% en après-bourse.
La publication n'est pas catastrophique, mais c'est sûr qu'à côté de Microsoft, elle est beaucoup moins flamboyante. Vous avez une marge opérationnelle qui est en très forte baisse. Elle était au-delà des 43% il y a un an. Elle est tombée à 31% avec certains éléments exceptionnels, des charges judiciaires, un plan de départ volontaire en début d'année. Et puis surtout, dans le même temps, un groupe qui dépense beaucoup d'argent. Et ce qui fait que son cash flow, son flux de trésorerie est passé de plus de 8 milliards il y a un an à seulement 800 millions au deuxième trimestre. Donc ça, forcément, ça fait peur aux investisseurs. Surtout que hier, contrairement à Microsoft, le groupe a dit qu'il allait investir encore plus dans l'intelligence artificielle. Il a revu à la hausse sa fourchette de CapEx. Alors pour rassurer, Mark Zuckerberg a confirmé des informations de presse sur le lancement de Meta Compute. Donc Meta va se mettre à vendre ses services de cloud, de data center au profit d'autres acteurs. Mais ça n'a pas suffi à rassurer. Et donc ce titre était en très forte baisse hier soir après la clôture de Wall Street. À suivre ce soir, Apple et Amazon qui vont clôturer le bal des résultats des GAFA.
Merci Étienne. Et puis hier, la Fed a maintenu ses taux inchangés. Pourtant, l'inflation est élevée, la guerre au Moyen-Orient s'enlise, la bourse est fébrile, bref, la pression monte. Mais Kevin Warsh n'a, je cite, pas de baguette magique. On l'écoute.
L'économie a fait preuve d'une solidité impressionnante malgré les récents chocs. Les tendances sont positives et nous montrent une croissance qui reste robuste. Les créations d'emplois ont suivi le rythme de la population active et le taux de chômage a peu évolué. L'inflation demeure élevée par rapport à l'objectif de 2% fixé par le comité.
En France, les résultats de Renault et dans un secteur déprimé en Europe. Le constructeur français Renault avec les bénéfices, son chiffre d'affaires est en augmentation de 10% sur un an au premier semestre et sa marge opérationnelle pointe à 5,2%. Le groupe confirme ainsi ses prévisions pour 2026. Explication Justine Vassogne.
François Prevot, lors de la présentation des résultats, a tenu à le préciser. Cela fait un an tout juste qu'il a pris ses fonctions et il est fier, dit-il, de son bilan. Au premier semestre, le groupe tire son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires en hausse de 10%, tiré notamment par les bons résultats de la marque Renault, dont les volumes augmentent de 3%. Renault, dont un quart des ventes est désormais 100% électrique, porté par le succès de la R5 et un démarrage explosif, selon les dires de François Prevot, de la nouvelle Twingo, la multiplication des partenariats, qu'ils soient en ancien avec Nissan ou plus récent avec le chinois Geely en Corée du Sud et au Brésil, tire aussi les ventes de Renault vers le haut. Beaucoup de constructeurs viennent frapper à notre porte, explique d'ailleurs François Provost, ouvert à de nouvelles alliances en Europe, à condition que ses partenaires utilisent ces technologies. Le patron de Renault a par ailleurs confirmé les prévisions du groupe pour 2026, avec un objectif de marge opérationnelle à 5,5%.
La situation en Gironde, une semaine après le départ du feu et alors que la lutte se poursuit, MKG publie un premier point d'étape sur l'impact des feux dans l'hôtellerie en Aquitaine. Et le manque à gagner atteindrait déjà 2 à 5 millions d'euros par semaine, François-Xavier Roux.
Effectivement, Sandra, les réservations d'hôtels sont en chute libre depuis une semaine sur le littoral girondin et même loin des flammes. La saison avait pourtant bien commencé avec un taux d'occupation de 92%. Et dans un premier temps, les hôtels ont donné l'illusion de bien résister au début de l'incendie. Entre le 22 et le 24 juillet, le taux d'occupation a même progressé. Rien que sur la métropole bordelaise, le chiffre est passé et a augmenté de 11,7 points par rapport à l'an dernier. Mais cette hausse ne reflétait pas un afflux de vacanciers. Elle était portée par le relogement d'urgence des habitants évacués. Cela s'est vu dans la qualité des hôtels réservés. Les hébergements les plus économiques doublent presque leur rythme de réservation de dernière minute de 6 à 11%, alors que le haut de gamme perd près de 3/4 du sien.
Et samedi dernier, le 25 juillet, tout bascule. François-Xavier, les annulations deviennent supérieures aux ventes.
Les réservations de dernière minute, pourtant à un niveau important à cette date l'an dernier, chutent de 17 points. Et sur la semaine, elles deviennent négatives et reculent de 3%. Sur cette période, MKG estime donc une perte du chiffre d'affaires de 2 à 5 millions d'euros et un chiffre qui se répétera chaque semaine tant que l'incendie dure. En début de semaine, seuls 45% des chambres d'hôtel étaient prises pour le mois d'août sur le bassin d'Arcachon. La bonne nouvelle, c'est que l'arrière-saison résiste. Les réservations à plus de 2 mois, elles, progressent à un rythme supérieur comparé à 2025. Seul le cœur de l'été est donc pénalisé pour le moment.
Merci beaucoup François-Xavier Roux. Les incendies qui fragilisent l'hôtellerie, on l'a dit, mais qui rappellent aussi que l'adaptation au changement climatique devient incontournable dans tous les secteurs de l'économie. Dans le logement, les promoteurs sont désormais poussés, hein, vous allez le voir, à construire autrement. Pierre-Henri Pouchelon, directeur général adjoint en charge des finances chez Nexity, était hier soir au micro de BFM Business.
Je pense que vous voyez bien que il y a un consensus national, local, sur le besoin en logement, sur la nécessité de construire. Ces canicules, ça marque les Français. Et donc, on voit qu'il y a une urgence à produire du logement de qualité. Et donc, c'est là peut-être qu'il y a une différence, c'est que il y a un changement de paradigme sur la promotion. Ça a été un métier de volume, ça devient un métier de qualité. Et donc, la qualité des emplacements, le prix. Il faut qu'on fasse du prix abordable pour nos clients et qu'on fasse des logements qui soient adaptés au changement climatique.
8h07, les marchés. Moins d'une heure de l'ouverture, la tendance, Étienne Brack.
Une tendance qui dépendra des nombreux résultats d'entreprises qui sont arbitrés. Donc pour l'instant, il faut prendre le futur avec beaucoup de pincettes, surtout que ce sont des grandes entreprises qui publient leurs résultats, les plus grandes entreprises du CAC 40, notamment Sanofi ce matin, qui relève ses perspectives à la hausse, tirées encore et toujours, bien sûr, par son traitement, le Dupixent. Schneider Electric, qui est dans le top 3 des capitalisations boursières, top 5 même, relève également ses prévisions, comme son concurrent Le Grand hier, grâce encore et toujours à l'intelligence artificielle. Vous avez de plus en plus de besoins de matériel électrique aux États-Unis pour faire tourner l'IA et donc ça dope les perspectives de Schneider Electric. Capgemini, qui a gagné 5% hier après la publication des résultats de ses rivaux, revoit ce matin à la hausse également ses prévisions. Donc c'est plutôt un bon cru là, en ce jeudi 30 juillet. Société Générale a annoncé ce matin un trimestre record, un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard même qui va être lancé dans les prochaines heures. Et puis hors CAC 40 à suivre, Air France KLM, c'est une publication qui était très attendue forcément puisque le deuxième trimestre a été marqué par une nette envolée des cours du pétrole et le résultat net est en baisse de 70% à 190 millions d'euros, mais le résultat opérationnel est légèrement au-delà des attentes. Hier soir, il y avait également des publications qui forcément seront arbitrées tout à l'heure à 9h. L'Oréal a surpris très positivement avec une croissance au-delà des attentes, surtout en Europe, et puis une très belle dynamique encore et toujours aux États-Unis. Et puis à l'inverse, c'était beaucoup plus compliqué pour la Française des Jeux qui a encore revu à la baisse ses prévisions. C'était le cas au mois d'avril, c'est à nouveau le cas. Alors c'est intéressant de voir que Française des Jeux dit avec la canicule, il y a eu moins de monde dans les bars tabac, notamment pour acheter des tickets de grattage et des jeux de loto. Bon, en dehors de ça, ce qui pèse surtout sur les résultats de la Française des Jeux, c'est la fiscalité qui qui est en hausse en France, au Royaume-Uni, en Roumanie. Et donc ça, ça a très sérieusement affecté le résultat de la Française des Jeux au deuxième trimestre. Et donc un groupe qui revoit à la baisse ses perspectives pour la deuxième partie de l'année.
Merci beaucoup Étienne Brac. On suit toutes les publications avec vous tout au long de la matinée sur BFM Business. Le meilleur de Culturia tout de suite.
Good morning business, Culturia.
Et aujourd'hui avec vous Anthony, on parle d'un robot qui fait le buzz depuis quelques jours, capable aussi bien de jouer du piano que de préparer votre omelette. Les images ont été vues des millions de fois sur les réseaux sociaux, elles montrent à quel point les avancées dans le domaine sont fulgurantes.
Ouais, parce que c'est vrai qu'elles sont très spectaculaires et vraiment ça vaut le coup aujourd'hui de nous regarder en télé, puisqu'on voit cette paire de mains robotiques vêtues de gants noirs
et
dotées d'une dextérité spectaculaire. Ouais, c'est absolument bluffant. Alors on voit ces mains robotiques taper au clavier, résoudre un Rubik's Cube, jouer du piano, manipuler des pipettes en laboratoire avec un niveau de précision absolument dingue. C'est une main qui a 20 degrés de liberté, qui peut même attraper plusieurs objets à la fois, réaliser des gestes fins, précis, manipuler des objets fragiles, des objets mous, glissants, et le tout assez rapidement. Parce que souvent, quand on voit des démonstrations robotiques, elles sont en accéléré, x5, x10. Là, on est à vitesse réelle. Alors, c'est un peu moins rapide qu'un humain, mais c'est quand même pour un robot extrêmement rapide. Et cette prouesse technologique, eh bien, on la doit à une start-up qui s'appelle Genesis AI, qui a été créée par un Français, par un ancien de Mistral, il y a un an. Et ce qu'ils ont mis au point, cette entreprise, eh bien, c'est ce qu'on appelle un modèle de fondation. C'est pas tant le robot ou la main robotique elle-même que le cerveau qu'il y a derrière, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui permet à ces robots de réaliser des tâches complexes. C'est-à-dire que ces robots, on n'a pas besoin de les programmer pour réaliser une tâche, visser, préparer un café. Non, en fait, ces robots, ils vont apprendre en regardant faire les êtres humains. On va leur apprendre en leur montrant par exemple des milliers d'heures d'humains qui font des Rubik's Cube, on trouve des vidéos sur YouTube, ils vont analyser le geste millimètre par millimètre et ensuite ils vont être capables eh bien, de le reproduire. Et c'est ça la prochaine grande révolution de l'intelligence artificielle, c'est plus des IA seulement qui savent générer du texte, de l'image, c'est des IA qui sortent de l'écran et qui commencent à appréhender le monde physique et à s'y intégrer d'une certaine manière.
Ouais, c'est pour ceux qui ont les images en télévision avec nous ce matin... Les gestes sont ultra fins.
C'est ça.
On a vraiment l'impression que c'est un humain. Il n'y a plus le côté saccadé du
Exactement.
Robot.
Exactement.
Quand on imite le robot, ça ne marche plus.
Non, c'est ça. Le C3PO, c'est plus ça. Maintenant, on est vraiment sur du quasi-humain. C'est ce qu'on appelle de la motricité fine et on y est, hein, réellement.
Bon, ça ouvre des perspectives énormes. On va peut-être avoir des robots dans un peu toute notre vie pour faire toutes sortes de tâches.
Oui, absolument. Alors, dans l'une des vidéos, moi, c'est celle qui m'a le plus bluffé. Je pourrais passer des heures devant, mais on le voit qui prépare une omelette, en fait, ce robot. Alors, c'est incroyable. On le voit qui casse les œufs, qui les met dans la poêle, qui coupe les tomates, parce que c'est une omelette aux tomates. Et en fait, ça montre bien en fait le niveau de précision, c'est-à-dire que le fait de se saisir d'un œuf, pour un être humain, c'est facile. C'est presque intuitif, et ça montre bien d'ailleurs à quel point notre cerveau est une merveille d'évolution biologique. Mais pour un robot, appréhender la bonne force de préhension pour ne pas casser l'œuf, c'est extrêmement complexe. Et ça montre bien qu'en termes de perspective, eh bien, on pourrait avoir demain des robots qui effectivement font la cuisine, peuvent monter un meuble à notre place, peuvent s'occuper d'une personne âgée, c'est-à-dire ce fantasme du robot majordome dont on parle régulièrement, qui pourrait s'inviter dans nos vies, vie personnelle et vie professionnelle, eh bien, on s'en approche de plus en plus. Je vous dis pas que c'est pour demain, mais les avancées dans ce domaine, elles sont absolument fulgurantes. Alors, même s'il faut tempérer un tout petit peu, parce que entre une démonstration dans un environnement expérimental absolument parfait, avec une lumière parfaite, avec on peut s'y reprendre plusieurs fois, et puis un vrai plan de travail où vous avez peut-être votre chat qui va monter dessus, et puis il y a des trucs qui traînent, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est ce fossé entre la vie réelle et les situations de laboratoire qu'il va falloir combler dans les mois qui viennent.
Rapidement, Anthony, vous le disiez, c'est une innovation française, ça remet la France dans la course à la robotique?
Bah pas vraiment, et c'est un peu une victoire douce amère, parce que c'est comme souvent, c'est souvent ces scénarios, on a des chercheurs qui sont formidables, c'est des Français, oui, mais la boîte a été créée aux États-Unis avec des fonds pour la majorité américains. On a quand même Xavier Niel, qui fait partie des investisseurs de Genesis AI, c'est un scénario qu'on connaît malheureusement par cœur, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a des talents très clairement dans le domaine de la robotique humanoïde.
Good morning business, French Tech.
C'est Georges Pornet qui est avec moi ce matin, bonjour.
Bonjour.
PDG de Qobuz, plateforme de streaming musical française. J'aimerais bien que vous nous rappeliez rapidement ce que c'est que l'histoire de Qobuz.
La Qobuz a été fondée il y a une vingtaine d'années déjà. Elle a eu des difficultés, elle a été reprise à la barre du tribunal en 2015 par l'actionnaire actuel. Et on l'a relancée, moi je suis arrivé en 2019 pour la relancer.
Alors, en face de vous, il y a Spotify, oui. Il y a Deezer. Évidemment, ça peut paraître fou de lancer une plateforme française. Comment vous vous différenciez, justement ?
Ben, c'est tout l'enjeu, c'est que justement, pour survivre, il faut se différencier.
Ouais.
On mise sur la qualité, on propose une qualité qui s'appelle la haute résolution, qui
qualité
est la qualité
son.
D'enregistrement des studios professionnels, qu'on ne propose pas Deezer ni Spotify. Et puis, on a une équipe éditoriale, donc on a plus de 700 000 articles sur la musique. On écrit, donc vous avez toutes les informations que vous voulez sur les artistes, les pistes, les albums, etc.
Donc c'est un contenu de qualité. En plus de cette plateforme, vous avez une sorte de média qui accompagne.
Voilà, on est un peu un média aussi. On a une vingtaine de journalistes qui écrivent sur la musique chaque semaine. Et puis on essaye de vous faire découvrir la musique différemment. C'est-à-dire qu'on vous propose les artistes. On a 100 millions de titres comme tout le monde. Mais chaque semaine, notre rédacteur en chef avec l'équipe vous propose de faire découvrir des artistes, donc une approche différenciée de la musique.
Vous dénichez les talents, c'est une mission que vous donnez.
Une des problématiques, vous savez, c'est d'émerger. Quand vous avez 100 millions de titres, faire émerger de jeunes artistes, c'est un gros problème.
Votre chiffre d'affaires a bondi de 45% en 2025, forte hausse du nombre d'abonnés et une percée aux États-Unis. Un petit acteur français par rapport aux géants qui fait une percée aux États-Unis.
Oui, on fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger maintenant, et les États-Unis, c'est plus de 30%, entre autres, parce qu'on a quatre types de clientèle. Les audiophiles, ceux qui sont sensibles à la qualité sonore, dont je vous parlais, la meilleure qualité. Les mélomanes, ce sont les gens qui jouent de la musique par eux-mêmes, qui sont dans l'industrie, qui ont une sensibilité particulière avec la musique. Les conscious, les gens sensibles aux valeurs, notamment la rémunération des artistes. Mmh. Moi, j'ai insisté pour que tous les employés soient actionnaires. Donc, tous les gens chez nous peuvent bénéficier du succès de l'entreprise, quel qu'il soit, à partir du moment où ils sont employés. Et ce sont des actions gratuites. Il y a zéro risque. Vous les avez, elles ne coûtent rien. Vous restez dans la société, vous ne pouvez que gagner. Et puis, toutes les valeurs ESG classiques que l'on connaît. Et les collectors, ce qu'on appelle les gens qui collectent. Nous, on est les seuls à proposer l'achat définitif de musique dans la meilleure qualité.
La rémunération des artistes, vous dites que vous y tenez beaucoup. Vous les rémunérez combien de plus par rapport aux autres plateformes ?
Alors, on ne rémunère pas en direct. Personne ne rémunère en direct. Nous, on génère le pot, c'est-à-dire les revenus que l'on verse aux maisons de disques. Et ce sont les maisons de disques qui ont des accords avec les artistes. Mais nous, on génère 6 fois la moyenne du marché en termes de revenus ARPU, Average Revenue Per User, le revenu moyen par utilisateur. Donc, de facto, on génère plus d'argent par abonné que les autres.
En termes de proportion, vous avez, et comme vous dénichez des talents, vous avez des artistes qui sont plutôt issus d'Europe, issus de France. Il y a une volonté de ça ou pas réellement ?
Vous savez, la musique est locale dans chaque pays. Si vous êtes au Brésil, la musique brésilienne, c'est très local la musique. Mais on distribue tous les artistes et évidemment, on promeut les artistes français à l'étranger.
Je parlais de votre percée aux États-Unis tout à l'heure. Il y a d'autres pays que vous visez ?
Alors, on cherche les zones de croissance. Ouais, faut pêcher là où sont les poissons, ouais. Hein, en général. Donc, entre autres, l'Amérique latine, c'est le Brésil, le Mexique ont une croissance de plus de 20%. Et l'Asie qui va pousser beaucoup. Déjà, la Chine pousse beaucoup. C'est le deuxième pour le marché du streaming payant. Et ça sera largement devant tous les autres pays dans les années qui viennent. Ce sont des zones de forte croissance sur lesquelles il faut être absolument. Moi, quand je suis arrivé, la France faisait 60% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle fait moins de 20%. Très important d'être diversifié. Le marché français, c'est 3-4% du marché mondial. On ne peut pas compter que sur le marché français pour croître.
On parle beaucoup des titres générés par l'intelligence artificielle, sur les géants notamment. Vous, comment vous gérez ces titres-là et l'intelligence artificielle? Comment elle va finalement vous aider à la croissance dans les années qui viennent?
Là, aujourd'hui, elle nous pollue beaucoup.
Oui.
Parce qu'on reçoit énormément de titres qui sont de la fraude. Quoi.
Mais c'est... ça va à l'encontre de ce que vous faites à la base. Quoi.
Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez des gens qui génèrent de la musique artificielle pour prendre une partie du gâteau et enlever une partie des recettes qui doit aller aux artistes. Donc nous, notre slogan, entre autres, c'est Music for Human by Human, c'est pour les humains, par les humains. Nous, toutes nos playlists sont faites par des humains. Je vous ai parlé de journalistes, etc.
Ouais.
Il n'y a pas d'algorithme, on en utilise un peu, mais qui font qu'on génère de la musique automatique et qu'on risque de se retrouver avec la musique générée par l'IA dans ce qu'on propose. Et on met en place aussi un système d'identification. Ceci dit, ça devrait être fait par l'industrie. Ceux qui nous fournissent la musique ne devraient pas nous fournir ces titres. Malheureusement, pour l'instant, l'organisation est un peu déficiente de ce côté-là, mais j'espère bien que ça va progresser. En tout cas, nous, on s'équipe d'un outil pour détecter la musique IA.
Merci beaucoup, Georges Fornet, d'être venu me voir sur la matinale de l'économie, PDG de Cobuz. Avec moi, dans un instant, on va parler du conflit en Ukraine, du conflit au Moyen-Orient. Les deux se croisent. Explication à tout de suite.
Good morning business. Le monde qui bouge, l'interview.
C'est Ulrich Bouna qui est avec moi ce matin, chercheur chez Eurocreative. Bonjour, merci d'être avec moi. C'est vrai que le monde a les yeux tournés vers ce conflit au Moyen-Orient. Mais il y a ce qui se passe aussi en Ukraine. Encore une alerte aux missiles russes cette nuit à Kiev. Ça veut dire que les combats continuent. Ils se sont même intensifiés au mois de juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement où il en est, ce conflit, Ulrich?
Le conflit continue toujours sur la ligne de front. Donc l'essentiel des combats se passe dans l'est de l'Ukraine, au Donbass, ou notamment dans la ville de Constantinople, où les Russes essayent de progresser et progressent très très laborieusement, perdent énormément d'hommes. Et après, effectivement, vous avez des frappes très régulières, puisque le front se débloque pas trop. Les deux protagonistes essayent de frapper en profondeur pour déstabiliser un petit peu l'arrière. Et donc, on voit effectivement, pas plus tard que cette nuit, des frappes de missiles balistiques et des frappes de missiles de croisière russes sur les principales villes ukrainiennes, notamment Kiev et Lviv. Mais ce qui est nouveau, c'est cette contrepartie. C'est-à-dire que les Ukrainiens, désormais, ont cette capacité à envoyer des drones très longue distance sur les raffineries ou sur l'Amazon russe en profondeur en Russie.
Volodymyr Zelensky était à la Maison-Blanche cette semaine. Il a rencontré Donald Trump. Est-ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait? Il voulait notamment des systèmes antimissiles.
Alors, il l'a à moitié obtenu, c'est-à-dire qu'il a donc obtenu cette licence qui lui permettra de produire ses propres missiles Patriotes, qui sont la seule arme efficace contre les missiles balistiques. Donc ça, il l'a obtenu, mais ça résoudra le problème probablement dans 2 ans. Il faut grosso modo à peu près 1 an pour construire la chaîne de montage et encore 1 an pour les produire. En revanche, il a besoin de 300 missiles Patriotes probablement pour tenir l'hiver, et ça va être très compliqué de les obtenir, parce que on estime que les Américains en ont tiré à peu près 1500 en Iran. Il leur en reste à peu près 1000, donc vous voyez que 300, c'est grosso modo le tiers du stock américain, donc ça semble relativement probable qu'ils les aient.
On est là-dedans, on est dans le moment où on compte les missiles.
Oui, complètement. En tout cas, enfin, ça dépend des capacités, mais sur les capacités anti-aériennes, anti-balistiques, oui. Les Américains et leurs alliés au Moyen-Orient en ont énormément utilisé et continueront d'en utiliser, puisque les Iraniens continuent à tirer sur le Moyen-Orient. Donc effectivement, il y a une pénurie mondiale de Patriotes.
Il y a quelques jours, l'Ukraine a frappé un navire iranien reliant Téhéran à Moscou, navire qui contenait des armes, me semble-t-il. Quelle était la stratégie derrière cette attaque? Parce que là, ce sont les deux conflits qui sont en train de se croiser.
Alors effectivement, les deux conflits se croisent, et c'est logique, hein, parce que l'Iran aide Moscou en Ukraine et Moscou aide l'Iran à répliquer contre les Américains au Moyen-Orient, notamment en termes d'imagerie satellitaire. Et donc effectivement, l'objectif des Ukrainiens en frappant ce navire en mer Caspienne, c'était probablement justement de montrer à Donald Trump que les deux sont liés et qu'effectivement aider l'Ukraine, c'est en quelque sorte lutter contre l'Iran. Je suis pas sûr que le message soit complètement passé à Washington, mais en tous les cas, c'était ça la stratégie.
Oui, parce que Téhéran aurait étudié une frappe contre un port ukrainien en mer Noire en représailles avant d'y renoncer à la suite d'efforts diplomatiques. Mais est-ce que ça veut dire que le conflit pourrait s'étendre réellement si les Iraniens le décident?
Réellement, non. Là, on parlait effectivement d'une frappe éventuellement symbolique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, l'Iran a soutenu l'effort de guerre. C'est moins important maintenant, mais l'Iran a soutenu l'effort de guerre de Moscou en lui fournissant notamment ces fameux drones Shahed, ensuite les Russes ont amélioré, mais ça a donné quand même un avantage ponctuel assez important à la Russie, qui a été la première à avoir ces espèces de drones kamikazes longue distance avec des charges explosives assez importantes. Donc dans tous les cas, oui, l'Iran est associé en fait à l'effort de guerre russe en Ukraine, au même titre que la Corée du Nord a fourni des millions d'obus et que la Chine fournit une partie de l'industrie qui sert à fabriquer des armes en Russie.
Quoi qu'il arrive, on voit que Volodymyr Zelensky reste très présent sur la scène internationale. En France, il a proposé d'envoyer des spécialistes ukrainiens pour soutenir les secours français sur les incendies en Gironde. C'est symbolique, mais ça témoigne du renforcement entre les liens, ou en tout cas de cette volonté de rester visible.
Ah oui, complètement. Mais disons que pour Volodymyr Zelensky, rester visible à l'international, c'est continuer à avoir de l'aide international, c'est continuer à avoir des partenariats industriels dans la défense. Donc tout ça, c'est fondamental pour aider à l'Ukraine à tenir probablement les prochains mois, le prochain hiver qui va être encore plus dur, etc. Mais effectivement, et on sent par rapport à la France un vrai rapprochement, Volodymyr Zelensky a appelé effectivement le président français pour le débriefer dans l'avion qu'il ramenait de Washington. Donc ça montre que les deux sont extrêmement proches. Ça s'est symbolisé aussi le 14 juillet. Il y a une volonté probablement des deux côtés de bâtir véritablement, on va dire, une alliance au minimum industrielle, militaire très forte entre les deux pays.
On le sait, et là je vais vous reparler du conflit au Moyen-Orient, mais Donald Trump est englué dans un agenda politique avec les midterms au mois de novembre. Il essaye de mettre fin à ce conflit dans lequel il s'est lancé. Il y a très peu de chances que ça marche. Il y a tellement de choses à négocier que ça n'avance pas, notamment dans le détroit d'Hormuz. On est dans une situation où tout cela s'enlise. Vous parlez de l'hiver prochain pour ce conflit ukrainien. Ça veut dire que là, on est encore parti pour des mois et des mois de conflit.
Probablement, mais parce qu'en fait, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, on a deux camps qui estiment qu'ils n'ont pas de besoin impérial ou impérieux plutôt, besoin impérieux de négocier en fait en quelque sorte une cessation des hostilités. Dans le cas de l'Ukraine et la Russie, finalement l'Ukraine ne cédera pas sur sa capacité à résister et à défendre son indépendance. Les Russes estiment qu'ils ont le temps pour eux et qu'ils arriveront à conquérir le Donbass d'une façon ou d'une autre. Et entre l'Iran et les États-Unis, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les Iraniens n'ont certainement pas envie de capituler aux demandes américaines, notamment sur le nucléaire, n'ont pas envie de lâcher le contrôle du détroit d'Hormuz qu'ils ont acquis depuis le 28 février, de façon militaire. Et d'un autre côté, les Américains estiment que finalement, ils peuvent continuer à maintenir la pression sur Téhéran d'un point de vue économique en espérant que le régime finalement cède parce qu'il n'aura plus d'argent. Donc on voit bien que dans un cas comme dans l'autre, les protagonistes n'ont pas d'incentive, on va dire, à négocier très très rapidement. Et c'est ça qui fait que les conflits s'enlisent.
Merci Ulrich Gouna d'être venu ce matin, chercheur chez Euro Créative dans la matinale de l'économie.
Good morning business. Le journal.
Le journal à 8h30, les titres. La croissance française au deuxième trimestre est tombée ce matin, plus 0,2%. On va voir ça avec Emmanuel Lechypre. Stellantis a publié également, on va le voir, et continue à se séparer de son ancienne gouvernance. Et puis Gianni Infantino veut vendre des parts de la Coupe du Monde. C'est un tollé, vous allez le voir. La croissance française au deuxième trimestre, Emmanuel Lechypre, s'est tombée il y a quelques minutes, plus 0,2% finalement.
Oui, et c'est plutôt une bonne surprise. Ce printemps, c'était le printemps de tous les dangers pour l'économie française. On savait que l'activité avait reculé en début d'année. Et donc, c'est un pays fragile qui s'est fait percuter par la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Rappelez-vous, en début d'année, la prévision officielle pour 2026, c'était 0,9% de croissance. La Banque de France avait jeté un froid en révisant à 0,5%, donc en divisant quasiment par deux, sur la base notamment d'un deuxième trimestre qui serait mauvais pour l'activité. L'INSEE était quand même plus optimiste, puisqu'elle nous disait non, au printemps ce sera 0,3%. Eh bien, la balance a plutôt penché en faveur des optimistes, effectivement. La croissance française a tenu. On évite le fameux le mot de récession. Donc ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a quand même du bon et du moins bon dans cette croissance. Le bon, c'est notamment le dynamisme de nos exportations. Le bon, c'est aussi que cette croissance a été obtenue malgré un déstockage massif des entreprises. Vous savez que ça a une influence considérable sur l'activité. Là, on a un vent contraire sur les stocks qui est de quasiment un demi-point d'activité. Donc, si on avait été neutre sur les stocks, on aurait fait 0,7% de croissance. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que des entreprises qui vident leurs entrepôts aujourd'hui, c'est des entreprises qui produisent plus demain. Le assez bon, c'est la consommation des ménages. Bon, il y a logiquement baisse de la consommation d'énergie avec la hausse des prix. On sent qu'il n'y a pas de folle envie de dépenser, de se lancer dans des grands achats. Mais il y a une consommation de services qui a tenu. Et puis, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est la baisse de l'investissement des entreprises tirée vers le bas par la construction, incertitude géopolitique, incertitude politique en France avec les présidentielles, situation financière plus fragile des entreprises, c'est le pire cocktail qu'on puisse imaginer pour les chefs d'entreprise. Donc la conclusion, c'est que la prévision de 0,7% pour l'ensemble de l'année aujourd'hui, elle est quand même encore optimiste au vu des attentes pour le deuxième semestre, mais disons qu'elle n'est pas encore hors de portée.
Merci beaucoup Emmanuel Lechypre. Les résultats d'entreprise, vous l'avez vu, deuxième vague de publication pour les GAFAM. On voit ça avec Étienne Brack quand il revient dans le point marché. Et puis Stellantis qui annonce ce matin avoir dégagé un bénéfice net de 293 millions d'euros au deuxième trimestre. Le géant franco-italien qui a enregistré sur ce deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en hausse de 13% sur un an. Il reste confiant dans sa capacité à atteindre des objectifs financiers en 2026. Le constructeur qui par ailleurs continue à faire le ménage dans son organigramme et à se séparer d'anciens lieutenants de Carlos Tavares, Justine Vassogne, Julien Thibault.
Le Stellantis d'Antonio Filosa n'a plus grand-chose à voir avec celui de Carlos Tavares. Au sein de la leadership team du constructeur, sur 15 membres, on ne trouve plus désormais que 3 anciens de chez PSA et seuls 4 Français. Le centre de gravité a basculé, les faits sont là, reconnaît-on en interne. Mais l'enjeu n'est pas ici, explique-t-on. Plutôt que de parler de nationalité, il faut se battre pour défendre les positions de Stellantis en Europe et en France, glisse-t-on encore. Pour sauver ses usines, le groupe mise désormais sur des partenariats avec des constructeurs chinois à Rennes, à Madrid ou encore à Saragosse. Symbole de cette nouvelle stratégie, pour la première fois, un Chinois entre dans l'équipe de direction du constructeur, Tianshu Xin, en charge de la co-entreprise avec Leapmotor, et qui va également piloter les régions Chine et Asie-Pacifique. À la rentrée, d'autres mouvements sont sans doute à attendre. Dans son plan stratégique, Antonio Filosa a voulu hiérarchiser ses 14 marques, en placer certaines sous tutelle. Lancia est désormais chapeauté par Fiat et DS par Citroën, ce qui laisse augurer de nouveaux changements.
Et puis ce tollé dans le monde du foot, la Coupe du Monde à peine terminée, Gianni Infantino a déjà un nouveau projet, celui de vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs extérieurs, dont notamment des proches de Donald Trump. Explication, Justine Vassogne.
La Coupe du Monde n'est pas un produit, s'insurge Andy Burnham sur X. Pas touche à notre sport, s'exclame la Commission européenne. Le projet de la FIFA ne passe pas. L'idée de Gianni Infantino, créer une société pour gérer les activités commerciales de la Coupe du Monde, la diffusion des matchs, la billetterie. Une société qui porte déjà un nom, FIFA Forward Enterprise, et qui pourrait ouvrir jusqu'à 20% de son capital à des investisseurs privés. À la tête de ce groupe d'investisseurs, le fonds Thrive Capital, géré par Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump. La relation étroite entre le président de la FIFA et le président des États-Unis a pris une dimension financière qui porte un grave préjudice au football, s'étrangle Sepp Blatter, le prédécesseur de Gianni Infantino. Avec cette opération, ce dernier espère lever 4 milliards de dollars et promet à chaque fédération membre de la FIFA dont il a besoin pour faire valider son projet un chèque de 20 millions de dollars. Gianni Infantino, selon le Times, se serait aussi assuré un avenir puisqu'il aurait déjà négocié avec Joshua Kushner de prendre la tête de FIFA Forward Enterprise en 2031.
Non mais vous allez voir, il disait juste ça comme ça, écoutez-le.
C'est une occasion en or de donner un coup d'accélérateur au développement du jeu à l'échelle mondiale. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'une proposition et non d'une obligation.
Dans l'actualité, enfin, il a repris les commandes de Solocal il y a 2 ans. Maurice Lévy était tout à l'heure dans le grand entretien. Il a par ailleurs annoncé la création d'un fonds pour les artisans et commerçants de Gironde. Écoutez comment ça va se passer.
Nous faisons un appel aux dons pour soutenir spécifiquement les petits commerçants et les artisans, parce qu'ils sont le tissu économique de la France. Et donc, l'argent qui sera collecté, nous le doublerons. C'est-à-dire que, quelle que soit la somme qui aura été collectée, nous abonderons d'une somme équivalente. Et nous verrons avec les mairies et avec des associations comment le distribuer de manière juste pour tous les artisans et les commerçants qui ont été sinistrés.
Grand entretien avec Maurice Lévy à retrouver sur notre appli, sur notre site en replay, évidemment. 8h37, les marchés.
Votre rendez-vous avec N2F, la solution qui simplifie vraiment la gestion de vos notes de frais. Plus d'infos sur n2f.com.
Etienne Brack, la tendance à moins de à 20 minutes de l'ouverture.
23 minutes.
Oui.
Plus 0,2% en préouverture. Restons très prudents. Il y a une avalanche, et le mot est vraiment faible, de résultats. Une dizaine de sociétés du CAC 40 ont publié entre hier soir et ce matin. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, mais le diable peut se cacher dans les détails. Hein. Souvenez-vous, hier matin, la publication d'Hermès sur le papier était très satisfaisante.
Ça a chuté lourdement en journée.
On a perdu 11% quand même. Mais en tout cas, factuellement, ce matin, vous avez beaucoup de groupes qui revoient à la hausse leurs perspectives. Sanofi revoit à la hausse ses perspectives. Schneider Electric, le titre gagne 6% en préouverture. Capgemini également se montre plus confiant pour la deuxième partie de l'année. Veolia revoit à la hausse son résultat net, à la hausse également pour le second semestre. Ce Ipsen ou encore Société Générale se montre également confiant. Société Générale qui annonce ce matin un trimestre record avec un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros qui va être lancé dans les prochains jours. À l'inverse, c'est compliqué pour Air France KLM. Le marché n'attendait pas de miracle, hein, forcément avec un baril de pétrole qui était en très forte hausse au deuxième trimestre. Mais vous avez un groupe qui est très prudent pour la deuxième partie de l'année, qui revoit à la baisse sa capacité. Vous savez, c'est le nombre de sièges disponibles. Ça montre bien quand même qu'au vu du contexte, on a quand même des voyages qui sont moins forts que prévu en ce moment. Stellantis, vous en parlez il y a un instant, a publié ses résultats. Ça va mieux par rapport à l'an dernier, mais vous avez un résultat opérationnel qui est en deçà des attentes des analystes. Et puis, il faudra également suivre Vinci, qui a publié un semestre très résilient malgré une baisse du trafic sur les autoroutes avec l'envolée des prix du carburant. Hier soir, c'était L'Oréal qui avait annoncé des ventes supérieures aux attentes, mais inférieures aux attentes sur la division luxe. Et puis Airbus, de son côté, qui s'est également montré hier soir très confiant sur ses livraisons pour la deuxième partie de l'année. Voilà quelques-uns des résultats qu'il faudra suivre, sachant que si on regarde en Europe, on a quand même plusieurs dizaines de sociétés qui ont dévoilé leurs résultats entre hier soir et ce matin.
Je vous laisse les mains pour le club de la bourse. Il y aura qui dans le club de la bourse, Étienne
Braque ? Guillaume Loewe d'OptiGestion. Nous reviendrons bien sûr sur les résultats hier soir de Microsoft, qui rassure les investisseurs, titre en très forte hausse, et puis à l'inverse Meta qui déçoit. Et puis Vincent Juvins sera également dans ce club de la bourse depuis ING pour revenir sur ses GAFA, mais également sur Wall Street qui a clôturé en très nette baisse après la Fed hier soir. C'est certes Kevin Warch a laissé ses taux inchangés, mais ça n'a pas rassuré les investisseurs. Et puis à 9h05, nous serons avec Mathias Desmarais de Oddo BHF pour revenir sur quelques-uns de ces résultats qui ont été publiés ce matin, avec donc beaucoup de résultats à arbitrer dans le CAC 40.
Le club de la bourse très complet dans un instant avec Étienne Braque, et moi je vous retrouve demain matin juste avant 7h. Bonne journée sur BFM Business.